Bonjour à toutes et à tous. Les 17 et 18 octobre 2024 à Besançon a eu lieu la 4e édition des journées d'études jeunes chercheurs du laboratoire C3S, réunissant des communicants issus de diverses disciplines des sciences humaines et sociales. S'il s'agissait les fois précédentes de s'intéresser à la construction de l'objet d'étude ou encore à la place du corps ou du secret dans le processus de recherche, l'enjeu était cette fois-ci d'interroger la place à accorder à la subjectivité du jeune chercheur dans la construction de sa propre réflexion. Se référer à ses propres catégories de jugement, ses affects, ses prénotions, est-il alors atout ou obstacle ? Comment le jeune chercheur peut-il se confronter à cette part personnelle, la contenir, en rendre compte ou alors l'exploiter à des fins heuristiques ? Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Lucas Fritz, qui effectue son doctorat à l'Université Paris-Nanterre, donc inscrit en sciences de l'information et de la communication, puis en sociologie au laboratoire IRIS à l'EHESS. En parallèle, Lucas poursuit un ATER à l'Université Gustave Eiffel. Nous le remercions pleinement d'avoir accepté notre invitation. À partir de son enquête portant sur les personnes autistes, Lucas avait questionné les normes d'accessibilité de l'entretien. Il a ensuite dévoilé la manière dont l'approche CRIP, propre aux technosciences, permettait d'exploiter ces frictions d'accès au face-à-face comme un élément heuristique. Lucas, donc je te donne la parole. Peux-tu commencer par te présenter toi et ton sujet de thèse ?
Oui, ben merci beaucoup Sacha de me donner la parole et puis ben, je remercie les auditeurs et auditrices de nous écouter ou de réécouter le podcast. Donc moi je m'appelle Lucas Fritz, je suis en début de cinquième année de thèse, même si je soutiens ma thèse le mois prochain, c'est un début de cinquième année de thèse et donc je suis inscrit en sciences de la communication et en sociologie et donc ma thèse elle porte grosso modo sur la neurodiversité, qui sont donc des mouvements sociaux qui sont portés par des personnes qui se disent neuroatypiques, qui sont autistes pour la plupart, mais qui récusent en réalité l'autorité du discours médical et qui pour cela ne se définissent pas comme étant autistes, mais plutôt comme neuroatypiques. Et en fait, moi je m'intéresse à la façon dont ce mouvement émerge en France, qui est un mouvement qui est plutôt états-unien, donc sur la façon dont il se manifeste en France, et surtout sur le rôle, et c'est ce qui va un peu aussi justifier cette bimaternité de ma thèse entre sociologie et sciences de la com, c'est que la part belle va être faite au dispositif de communication, notamment numérique, mais pas que, puisque ce que j'ai pu présenter dans cette journée, c'est le cas d'un dispositif de communication qu'on n'a pas trop le cas de concevoir comme dispositif, qui est l'interaction face à face, justement. Mais moi, je vais m'intéresser au rôle de ces dispositifs de communication dans les prises de parole des personnes neuroatypiques, dans la mobilisation de ces personnes et aussi dans l'articulation des communautés de savoir autour de l'autisme et de la neurodiversité. Et en fait, dans le cas de ma thèse, j'étais amené en fait à utiliser une multitude, on va dire, d'outils d'enquête de terrain. Donc à la fois, j'ai mené des enquêtes ethnographiques auprès des personnes autistes au sein des mouvements militants de la neurodiversité, au sein de différents établissements médico-sociaux accueillant des personnes autistes et ou neuroatypiques. Et j'ai aussi des analyses de documents, des analyses de conversations en ligne, beaucoup d'analyses sur les réseaux sociaux, à chaque fois en interrogeant ce que tu as très bien souligné, c'est-à-dire la question des frictions d'accessibilité, c'est-à-dire en quelle mesure ces dispositifs sont accessibles à ces personnes, et sinon, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement sur la normalisation de nos pratiques de communication. Donc voilà un peu pour ce que mon travail de thèse couvre, en tout cas comme champ de recherche.
Merci beaucoup, Lucas. Alors, pourquoi le sujet de la subjectivité t'a-t-il intéressé ?
Alors, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup interrogé sur cette question. Et en fait, moi, j'ai tout de suite eu envie de l'arnaquer. J'ai un peu expliqué pourquoi. Mais je pense que pour ça, il faut aller chercher un peu plus intérieurement, peut-être, dans ma formation. C'est-à-dire que j'ai un parcours qui est assez zigzagant, quand même, dans l'enseignement supérieur et la recherche, qui peut expliquer aussi à la fois pourquoi la subjectivité est aussi proche dans mes travaux et aussi pourquoi j'ai aussi beaucoup de mal à négocier avec elle, c'est que j'ai fait en fait un master de philosophie contemporaine avant de commencer ce doctorat, avec en plus entre le début du doctorat et la fin de mon master, une année de recherche-création. Donc en fait, je fais une thèse dans une discipline que j'ai appris à faire en enseignant, jamais fait de sciences de la com ni de la socio avant de commencer ma thèse. Et donc je viens en fait d'un héritage qui est celui de plutôt de la philosophie postmoderne par ailleurs, donc tout ce qu'on peut penser, Deleuze, Derrida, etc., qui en fait ont un socle qui est quand même très critique de la notion de subjectivité. Voilà. C'est-à-dire, je risque de caricaturer, donc je suis vraiment désolé pour les philosophes, les auditeurs, les auditrices qui m'écoutent. Disons qu'on peut un peu caricaturer la philosophie postmoderne en disant qu'elle va s'intéresser peut-être à ce qu'on peut appeler dans l'héritage de Michel Foucault la subjectivation, c'est-à-dire comment est-ce que le sujet se produit dans différents dispositifs de pouvoir, quels sont les mécanismes par lesquels il se crée. Mais par contre, la question de la subjectivité comme quelque chose qui serait comme figé ou qui serait en arrière-plan, derrière finalement cette réalité des rapports de force, c'est quelque chose qui est quand même assez remis en question quand même par cette philosophie postmoderne-là. Donc en fait, finalement, moi j'entre dans la subjectivité par un fort désinvestissement négatif. Voilà, c'est quelque chose où je me dis la subjectivité, c'est quelque chose de suspect. Voilà. Et globalement, j'ai envie de dire que les sociologues sont plutôt d'accord avec moi pour dire que la subjectivité, c'est pas un concept très sexy en sociologie. Voilà. Mm-hmm. On parle beaucoup plus peut-être de normes, de corps, d'individus. La subjectivité, c'est quelque chose quand même que voilà, on retrouve quand même assez peu. Et donc moi, ça commence peut-être par un fort désinvestissement négatif. Ça veut pas dire que je la mobilise pas, même si en fait, si vous faites une recherche contrôle F dans ma thèse, vous ne verrez aucune fois le mot subjectivité. Mais par contre, moi, ce qui m'interroge, c'est comment est-ce qu'on peut qualifier des événements qui semblent relever de la subjectivité autrement qu'en employant ce terme, parce que j'ai la sensation, ou en tout cas peut-être que c'était mes propres vices, qu'en fait, on a tendance à utiliser le terme de subjectivité pour recouvrir des événements qui sont très très différents les uns des autres. On emploie le terme de subjectivité pour parler des biais de genre, des effets de classe, de la place du corps, de la place... Voilà. Et donc je me dis, peut-être que des fois la subjectivité, le terme de subjectivité est en effet un voile pour masquer un peu l'étendue du chantier de reconstruction terminologique qu'il faut faire à certains endroits. Et donc moi c'était presque un défi d'écriture de me dire, toutes les fois où j'ai envie de dire subjectivité, est-ce que c'est pas pour moi une façon de me voiler la face, on va dire, face à l'étendue de ce qu'il faut reconstruire. Et pour moi, ça a été la reconstruction de la question du corps, de sa matérialité, de l'accessibilité. Et ce qui explique que, voilà, plutôt que de dire, je me suis confronté, j'ai essayé plutôt de faire en sorte de ne pas rencontrer la question de la subjectivité. Voilà.
Merci beaucoup, Lucas. Alors, quelles sont les voies détournées justement pour accéder à ce que cette catégorie nommée subjectivité permettrait de recouvrir? Voilà, est-ce que quelles sont les choses que tu as vues sur ton terrain qui pourraient se référer à cette catégorie-là, mais que tu essayes justement de dépasser?
Oui, ce qui est en fait le triptyque du titre de ma thèse, hein, qui est la matérialité, l'accessibilité et les frictions. Mais du coup, je pense que je vais un peu revenir aussi un peu sur ces questions-là. C'est vrai que dans une tradition, en tout cas, qui est la posture que je prends, qui est celle des études du handicap et qui essaye en fait de s'interroger sur ce que la matérialité du corps, notamment du chercheur, fait à l'enquête. Ce qu'on pourrait considérer comme de la subjectivité, comme par exemple, pour prendre un cas concret, moi ce qui m'a beaucoup interrogé, c'est la façon dont les conditions de l'enquête de terrain normalisent finalement les comportements du corps du chercheur. C'est-à-dire qu'en fait, on nous enseigne une pratique de l'entretien, une pratique de l'observation, et qu'en fait, cette pratique, elle prend assez peu en considération les diverses capacités des corps, et en fait, elle se positionne presque comme n'étant pas saisie dans l'histoire du handicap. Alors qu'en réalité, puisqu'on parle de corps et d'usage de corps, on parle nécessairement de normes de bon ou mauvais fonctionnement, et qu'il y a le handicap qui hante derrière. Et donc, quelque part, les dispositifs qu'on va utiliser dans l'enquête de terrain, comme l'entretien, comme l'observation, vont requérir en fait une certaine norme de fonctionnement corporel. Et en cela, ça demande soit à ce que le corps soit valide, donc qu'il soit capable de faire des interactions face à face, qu'il soit capable d'aller sur le terrain, et donc que la question du handicap de ce corps ne se pose pas. Ou alors, il sera demandé que le corps soit en mesure de masquer son handicap, c'est-à-dire de faire en sorte de le mettre entre parenthèses, de simuler finalement la validité le temps donné. Moi, je me suis trouvé dans beaucoup de positions dans lesquelles, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais dans lesquelles j'ai été quand même contraint de masquer certaines difficultés, ne serait-ce que pour correspondre finalement au niveau de maîtrise de communication qui est demandé en sciences sociales. Et en fait, dans ce moment-là, ce moment où je masque finalement mes difficultés, il y a assez peu d'éléments subjectifs. En réalité, ce que je vis, c'est une situation qui est objectivable dans le sens où ces mécanismes-là, ils s'exercent pas seulement sur mon corps, mais sur d'autres corps, qui sont généralisés en fait à un système, à une institution. Et en fait, je trouve que même ce serait resubjectiver cet événement-là, ce serait en faire une sorte de secret polichinelle de mon propre parcours diagnostique ou de ma propre médicalisation, que sais-je. Alors qu'en réalité, c'est aussi des pressions au bon fonctionnement et au validisme que d'autres chercheurs, chercheuses, peut-être valides ou peut-être autrement handicapés, subissent en fait tous les jours. Et au-delà des personnes, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'effet sur l'objectivité de la recherche, quoi. C'est vraiment peut-être ça de me dire. Si on n'interroge pas finalement ce que ces normes de bon fonctionnement font au corps du chercheur ou de la chercheuse, on occulte toute une dimension en fait de la réalité de l'enquête du terrain. Il y a toute une dimension, et là pour le coup, de l'objectivité qui nous échappe, mais au sens où pourrait l'entendre quelqu'un comme Isabelle Clerc ou les études féministes dire, elles font la distinction, enfin. Il est elle, mais en tout cas les partisanes originelles, on va dire, des études féministes ou de l'approche de l'objectivité féminine, enfin, proche de l'objectivité dans les études féministes, ce serait de dire il y a une objectivité, ce qu'elles appellent forte. Et donc il y a rendre compte du terrain, mais il y a aussi rendre compte des conditions matérielles de l'enquête. Et en fait, dans les conditions matérielles de l'enquête, il y a aussi l'accessibilité de ces dispositifs. Et que en faire un objet de la subjectivité, c'est occulter le fait que bah, ça fait partie de la matérialité des outils. Voilà un peu la manière dont je jongle avec ces différents aspects.
Alors, merci beaucoup, Lucas. Et donc, pour prolonger cette réflexion, toi, justement, qui mobilise les cadres et hein, les outils aussi de l'interactionnisme symbolique, notamment par l'intermédiaire de Goffman sur le face-à-face, la présentation de soi, j'aimerais justement évoquer l'ouvrage célèbre de Ward Becker sur l'écriture, la manière d'écrire en sciences sociales, qui est aussi une forme de réponse à certaines injonctions dans un monde, le monde de la recherche. Alors toi, comment rendre compte finalement de cette subjectivité à travers tes écrits? Comment tu peux t'y prendre justement, ouais, est-ce que tu as des pistes pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent pour rendre compte de cette subjectivité à travers l'écrit qui lui-même est dominé par un ensemble de normes partagées, conventions partagées dans le monde universitaire?
Ben, je suis vraiment très très content que tu me mènes sur cette question parce que c'est une question qui me tient profondément à cœur et c'est celle sur laquelle se clôt ma thèse, à vrai dire. Enfin, une grande partie de la conclusion de ma thèse, en fait, est consacrée justement à ce paradoxe qui est de devoir, à travers un dispositif moindrement accessible qui est la thèse, rendre compte des dispositifs de leur accessibilité, où je me confronte en fait voilà, à cette inaccessibilité de l'exercice de rédaction de la thèse. Et donc, je tente de créer des espaces. Justement de friction, de résistance face à l'injonction des bonnes normes d'écriture dans le cadre de la thèse, ce qui au final ne marche pas, et d'ailleurs je le constate de façon assez amère en disant que ces espaces d'expérimentation-là, puisqu'ils sont délimités au sein de la thèse, me mettent en scène quand même comme quelqu'un qui est capable d'en maîtriser les codes. Donc en réalité, c'est pas en faisant un encadré dans lequel vous testez des choses que ça peut marcher, parce qu'il y aura toujours le regard surplombant un peu de la thèse qui viendra encadrer tout ça. Moi, je m'exerce à certaines choses à travers notamment des techniques de traduction et de simplification de texte, donc tout ce qu'on appelle autour du facile à lire et à comprendre. Donc il y a une technique de traduction qui est employée afin de rendre les textes accessibles aux personnes qui sont en situation de déficience intellectuelle et ou aux personnes qui sont primo-arrivantes sur le sol français qui ne maîtrisent pas la langue. Et donc c'est voilà tout un ensemble de recommandations pour rendre des textes accessibles pour ces personnes. Et donc moi je bricole ou j'ai bricolé dans certains espaces de rédaction comme des articles pour la revue Trou Noir où j'ai publié un article qui s'appelle Sortir ensemble, entrer ensemble, et qui est du coup une tentative d'écrire un texte théorique sur l'accessibilité qui soit lui-même accessible. Donc, c'est-à-dire en voyant est-ce qu'on peut écrire de la théorie qui soit écrite de façon accessible, et qu'est-ce que ça fait la théorie que d'écrire de cette manière-là. mais après, c'est quelque chose que j'aimerais porter de façon beaucoup plus collective, donc quelque chose que j'ai commencé à mettre en place avec mes étudiants et mes étudiantes, de dire, en fait, on va essayer de traduire des textes théoriques en facile à lire et à comprendre, mais on va aller plus loin et essayer de s'interroger sur l'accessibilité des workshops par lesquels on rend les textes accessibles. Qu'est-ce que c'est que de se rencontrer de façon accessible, enfin, voilà. Et ça, c'est des choses que je commence à travailler à l'issue de ma thèse, et c'est d'ailleurs un peu ce que je projette en tout cas de faire à l'issue de ma thèse, c'est d'essayer plus de glisser vers des formes de recherche-création justement, notamment dans des formes de partenariat avec les institutions artistiques où j'essaie vraiment d'assumer que maintenant, puisque l'accessibilité elle interroge l'écriture par laquelle elle se raconte, il y aura nécessairement une composante formelle, une composante d'expérimentation et donc une composante artistique en fait. Donc voilà un peu mes conseils peut-être, je ne sais pas aux auditoristes, c'est de... parce qu'on parle beaucoup d'interdisciplinarité voilà, en sciences, mais c'est presque de pousser au sérieux au maximum cette injonction à l'interdisciplinarité, de dire soyez interdisciplinaire avec les arts aussi, et avec ce qu'ils peuvent vous apporter comme possibilité formelle pour l'écriture.
Alors... Pour synthétiser, penses-tu que la subjectivité dans la recherche est un atout ou un obstacle, en te référant à ta propre expérience?
Je sais pas si c'est... Alors, je vais zigzaguer encore, mais je dirais qu'elle est inévitable, voilà. Et qu'en tant qu'inévitable, on doit se la prendre en pleine gueule comme un obstacle, peut-être. Je pense que ça doit être certainement la meilleure façon de se prendre la subjectivité, c'est de la prendre au sérieux et de la prendre en pleine face. Parce qu'elle finira par s'imposer à vous de la manière la plus inattendue qui soit, donc autant la regarder peut-être la plus directement. Voilà, ce serait mon conseil. Et après, comment dire, s'il y a peut-être pour faire un peu une mise en abîme, c'est-à-dire que la question de la subjectivité, on sait qu'elle est largement, la subjectivité du chercheur ou de la chercheuse, elle est très sujette à débat, en tout cas dans l'encadrement des thèses. Ça peut être très difficile, en tout cas dans certains encadrements, de faire valoir une position, on va dire, subjective ou située. Mais il faut se dire qu'exprimer sa subjectivité, c'est aussi accepter qu'il y ait cette forme de clivage dans l'encadrement et qu'on peut vivre avec ce clivage-là. C'est-à-dire qu'il faut accepter que lorsque on se situe depuis le point de vue de sa subjectivité, on ait un encadrement qui soit tumultueux, que ça fait partie de la richesse aussi de la thèse. Quoi. Mmh.
Ouais. Très bien. Et donc la subjectivité n'intervient pas forcément contre l'objectivité scientifique, selon toi?
Là encore, je vais voler la parole aux philosophes d'entre nous et je suis vraiment désolé pour ce que je vais faire. je pense pas. Alors après, on s'est arrangé d'une façon assez étrange avec ça, j'ai l'impression. Alors je dis « on » parce que je prends acte du fait qu'on partage aussi un peu une même épistémologie, toi et moi, autour de la sociologie, et que j'ai l'impression que la sociologie s'est bien démerdée quelque part pour parler d'objectivité sans forcément parler de subjectivité, et de dire en fait on va à la recherche d'objectivité, mais finalement la question du sujet, c'est pas qu'on l'a résolu, c'est qu'on part du principe que de toute façon, puisqu'on est dans l'université, nous sommes des sujets de la connaissance, enfin, donc du coup il n'y a pas forcément besoin d'aller tout le temps les rechercher de ce côté-là, mais je dirais que en tout cas on n'a peut-être pas besoin maintenant d'un solutionnement philosophique à cette dialectique, au sujet, à la subjectivité, pour pouvoir se mener là-dedans. Mais peut-être que plus tard, ça commencera à poser problème. C'est-à-dire que peut-être que d'ici 10 ou 15 ans, il y aura peut-être un réappel vers la philosophie pour nous aider à comprendre ce qu'on a fait durant ces années-là, où la question de la subjectivité, en tout cas moi j'ai la sensation, est un petit peu secondaire par rapport à celle de l'objectivité dans toutes ses dimensions, qu'elle soit faible, forte, question de l'objectivité. Et donc peut-être qu'au bout d'un moment, les philosophes nous rappelleront à l'ordre en disant « Les gars, vous avez fait de la merde, il faut revenir sur vos pratiques épistémologiques. » Mais pour l'instant, on peut être rassuré, on a encore un terrain d'expérimentation peut-être.
Merci beaucoup. Alors pour se décentrer quelque peu de l'objet de la thèse en elle-même, qu'est-ce que ta recherche t'a fait à toi, qu'est-ce qu'elle t'a procuré, comment a-t-elle fait pour... est-ce qu'elle a changé ta manière de voir le monde, dans ton quotidien, Voilà, plus maintenant interroger le lien entre la thèse et ton quotidien, au-delà de la recherche, voilà. Comment ta recherche, ta propre recherche, a-t-elle pu te façonner, en fait?
Ouais. Alors moi, c'est vrai que lorsque tu me poses cette question, je pense aux méthodes que j'ai employées, au fait que j'ai quand même une recherche qui était très, très empirique, en ce sens que j'ai quand même fait des terrains très immersifs. J'ai été quand même pendant plus de deux ans et demi dans des implications quasi quotidiennes, dans des associations, dans des établissements. Donc pour moi, la transformation, elle a été évidente déjà du point de vue de l'implication réelle que j'ai eue dans ces organismes, c'est-à-dire l'effet que j'ai pu avoir, ce que ça a pu avoir en retour. Et après, moi, j'étais quand même fortement engagé sur des questions qui commençaient à me travailler personnellement, qui étaient celles des rapports de pouvoir autour du handicap, de la façon aussi dans mon univers de travail, dans mon écosystème de travail universitaire, renforcer en fait un impératif de bon fonctionnement contre lequel j'étais, si ce n'est en désaccord, en tout cas dans une tension assez vive. Et en fait, pour moi, il y a eu à la fois, il y a eu une espèce de d'apprentissage et de mise en pratique de l'apprentissage de tout un tas de termes, anti-validisme, CRIP, etc., qui ont non seulement participé à la création de communautés dans lesquelles je suis encore actif aujourd'hui, que ce soit des militants, des militantes, des chercheurs, des chercheuses qui sont autour de ces questions, mais qui ont aussi participé d'une transformation profonde de mon rapport au corps, de mon rapport au temps, de mon rapport à ce que je considère être honteux ou pas d'assumer en public. Enfin, voilà. Pour moi, c'est aller aussi loin dans cette transformation-là, c'est-à-dire que d'apprendre à assumer aussi un certain état de corps dans mon expérience de l'université. Ce que je dis, par exemple, autour de l'antivalidisme, de la fatigabilité, des normes de bon fonctionnement intellectuel, même si ce qu'on est en train de faire là, c'est un très très mauvais exemple, évidemment, puisque là, je suis dans une parfaite maîtrise de mes termes. Quoique je pense que je réécoute l'entretien, je pense que je suis beaucoup moins cohérent que ce que je pense, et on peut dire que c'est un laisser-faire neurodivergent de ma part dans ce qui est en train de se passer, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que là, je sens, en parlant, et en m'exprimant aux auditorices invisibles, que je suis encore dans une adresse au public qui est quand même encore très vanido-centrée, quoi. C'est-à-dire que je ne m'autorise pas de pause, je regarde le temps qui défile à l'écran. Enfin, mais disons que c'est ma thèse a été le début de ce que je dis d'ailleurs dans mon introduction, une grosse révolution copernicienne sur la place que le corps peut avoir dans les institutions et sur le rôle que la recherche, en fait, joue dans les normes de corps, dans le validisme. Et en cela, ça a été une transformation physique, vraiment profonde, en fait, cette thèse. Quoi.
Merci beaucoup. Alors, pour en revenir à la journée d'études, est-ce que comment les échanges qui ont eu lieu pendant ces journées-là ont enrichi ta réflexion, et qu'est-ce que tu retiens de ces journées? Est-ce qu'il y a des... ou peut-être pas grand-chose, je sais pas, mais toi, à titre personnel, voilà, qu'est-ce que tu retires de ces journées? Comment elles ont pu t'aider ou pas, ou voilà.
Écoute, moi, je retiens beaucoup de pogo. Je sais pas si... Non, mais du coup, pour que les auditeurs puissent un peu saisir les private jokes qui se jouent dans ce podcast, c'est que mon interviewant, si je peux énoncer comme ça, même si c'est très mal dit, du coup, a écrit une thèse, magnifique thèse, que je vous invite par ailleurs à lire, sur le pogo, et qui pour moi a été une véritable, comment dire, ça a été un gros contraste. Alors, bon, je répondrai sur trois points. Il y a déjà, je pense, nos échanges et notre rencontre, en tout cas, cette perspective du pogo qui, en fait, offre un contrepoint tout à fait élégant, en fait, à cette question du corps valide et des normes de bon fonctionnement corporel, avec cette espèce de pogo qui est quand même assez paradoxal, à la fois entre intensification et déconstruction du corps puissant, on va appeler ça comme ça, enfin, moi, c'est la façon dont je l'intègre, et qui m'a donné vraiment une multitude d'idées sur des terrains à observer, sur comment se lier avec le domaine de la musique. Enfin, voilà, pour moi, ça a été très, très nourrissant en termes de rencontres, en tout cas dans le cadre de ce colloque. Mais tout ça est très déterminé par le fait que c'était un colloque de STAPS, et qui pour moi était une grande première, hein, puisqu'en fait, en interdisciplinarité dans les sciences humaines et sociales, nous en sciences de la com, en sociaux, sciences de la com, sociaux, philo, droit, disons qu'on dialogue quand même pas mal beaucoup. Et assez bizarrement, les STAPS, très peu. D'ailleurs, je m'en étonne en tant que personne travaillant sur les handicaps de ne pas m'être plus intéressé aux STAPS, alors que ça me paraissait complètement évident. Mais voilà, je pense qu'une grande joie en fait, de ce colloque, ça a été sa très forte interdisciplinarité au début et sa complète post-disciplinarité in fine, puisque je pense qu'à la fin, on n'était même plus vraiment capable de dire qui appartenait à quelle discipline. Et c'est peut-être aussi, là encore, un conseil que je peux donner peut-être aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que de ne pas cloisonner la subjectivité à la construction de la subjectivité que certaines disciplines peuvent vouloir imposer. Voilà. Et que ce type de colloque, on est un très très bon exemple de décloisonnement interdisciplinaire. Et après, un autre élément vraiment qui, moi, dans ce colloque, m'a beaucoup questionné, mais ça a été aussi amené par Pauline Deodati. Qui a beaucoup parlé de la temporalité dans la subjectivité, ou en tout cas, elle a évoqué d'une façon qui m'a, pour moi, a vraiment resté gravée dans ma mémoire, où elle parlait justement de l'évolution en fait de la subjectivité de la chercheuse tout au long de la thèse. Et c'est vrai que cette question de, on passe plusieurs années à écrire une thèse, parfois de nombreuses années, parfois c'est douloureux, parfois on revient, les temporalités sont pas les mêmes, on se métamorphose énormément durant cette thèse. Et en fait, à la fin, on a un document pour lequel on peut d'ailleurs nous reprocher si l'écriture n'est pas homogène. Voilà, et qu'il y a quand même un peu une espèce de paradoxe entre les multiples temporalités de la thèse et la monotemporalité quelque part de l'écriture du manuscrit. Mais pour plus d'informations sur ces questions de temporalité, je peux que vous renvoyer aux excellents travaux du laboratoire, du coup, du projet Ion, non, à l'excellente publication qui vient de paraître, donc ce petit dictionnaire dissident du temps. Magnifique, magnifique, donc qui pourra aussi vous éclairer sur ces questions. Mais voilà, des questions, en tout cas, l'articulation temporalité-subjectivité qui est très forte quand même dans ce colloque.
Merci beaucoup, Lucas. Alors, je tiens à signaler que ça a été également un vrai plaisir de t'accueillir à Besançon, d'échanger avec toi. C'est aussi la richesse de ces journées de favoriser ces rencontres-là, interdisciplinaires, comme tu le disais. Se profile, la cinquième édition pour, initier, l'organisation de ces éditions des journées d'études, les jeunes chercheurs du laboratoire discutent entre eux sur des thématiques qui peuvent paraître pertinentes. Donc effectivement, Lucas a évoqué la question de la temporalité dans la thèse, qui est extrêmement intéressante également. Nous, il y avait un certain consensus à travailler sur la question de la créativité. Et donc je voulais avoir toi qui justement t'intéresses à la recherche, au lien entre la recherche scientifique, le monde artistique et la manière dont les deux peuvent s'alimenter. J'aurais aimé avoir ton regard, voilà, sur cette thématique de la créativité dans la recherche.
Oui, tu prêches un convaincu, hein, puisque je m'oriente vers la recherche création et en réalité, je dirais même plus que je m'oriente parce que c'est un peu reconstruire artificiellement mes programmes de recherche ou ma temporalité de recherche, parce qu'en réalité je viens de la recherche création, vu que j'ai fait une année de recherche création avant de commencer ma thèse, et que ma thèse a été en partie financée par un organisme qui s'appelle Artec, qui est du coup en fait une école en fait de recherche création qui finance en fait des thèses en art et en sciences sociales, mais qui ont une forte composante soit de recherche action soit de recherche création. Donc du côté recherche à création, on est vraiment sur soit des artistes qui font des thèses en art ou en sciences de la com, mais qui en fait produisent souvent une exposition ou une œuvre en lien avec leurs travaux. Donc moi je veux dire au-delà, enfin voilà, je suis très, voilà, je suis convaincu déjà depuis plusieurs, c'est même pas convaincu, c'est que moi j'ai appris à faire ma thèse dans ces contextes-là, donc j'aurais bien du mal, je pense, à entreprendre la thèse et à avoir traversé certains moments de la thèse sans cette indiscipline ou cette non-discipline artistique ou ces contournements artistiques qui ont été rendus possibles. Après, moi plutôt que de donner les points positifs, parce que là, je veux dire, ils sont tellement nombreux que j'aurais du mal à les organiser, je vais peut-être parler des risques en réalité que ça engendre. C'est qu'en France, en tout cas, enfin, de ce que j'ai pu voir, et il y a beaucoup d'assises qui ont été faites sur ces questions, donc je pense que j'enfonce aussi des portes ouvertes, mais on est quand même dans un paysage qui est quand même très fortement ancré dans les méthodes systématiques, voilà, de l'objectivation par des protocoles sérieux, etc. Et en fait, aujourd'hui, même la recherche-création a beaucoup de mal à s'imposer comme un domaine en fait à part entière, sans qu'elle ne soit pas considérée finalement comme une recherche méthodologiquement faible ou comme un art qui plastiquement est inintéressant. Donc du coup, il y a toujours un peu ce problème de quelle place on fait finalement à ces formes hybrides. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de captations par des phénomènes, voilà, de structure de la recherche, de structure de financement, où la recherche-création est vraiment de la recherche plus loin, création, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours ce problème de, que je disais tout à l'heure, de finalement, s'il y a des espaces d'expérimentation dans le cadre de la thèse, c'est à condition qu'in fine, on s'en sorte pour faire une espèce de synthèse intellectuelle de ce qui s'est passé. Mais donc, je pense que, pour moi, si je devrais dire, un colloque, en tout cas, sur la création en recherche, qui peut-être pourrait prendre le risque soi-même d'être une forme créative et de ne pas être un colloque comme les autres, ce serait quelque chose de fort, parce qu'il y a toujours un peu cette espèce de déterminisme qui fait que, pour le regard des collègues, ou pour le regard de la hiérarchie, ou pour soi-même, tout simplement ses propres archives, parce qu'on ne sait pas comment faire, il y a toujours cette espèce de forme colloque, ou cette forme recherche qui finit par prendre le dessus, quoi. Ou en tout cas, peut-être, moi, c'est ce qui s'est passé à plein d'endroits dans ma thèse. J'ai eu l'envie de vraiment développer une partie de recherche-création et je crois que j'ai été rattrapé par tout un tas d'obligations et d'intériorisation, notamment, je pense, de beaucoup de normes balido-centrées en me disant « c'est une thèse, du coup, il faut que j'ai l'air intelligent et que du coup, je fasse quelque chose qui m'apporte un bénéfice intellectuel ou un surplus un peu quoi, intellectuel. Enfin, » voilà, mais en tout cas, c'est une thématique que je... En tout cas, je serais extrêmement ravi de voir ce projet monter, surtout que je connais le génie de votre équipe et je sais de quelle magie vous êtes capable. Donc, j'ai hâte de voir ça.
Bon, bah. Merci beaucoup, Lucas, pour ta participation à ces podcasts. Lucas a également un site internet sur lequel il répertorie l'ensemble de ses publications, de ses communications. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y rendre. Le nom du site, c'est...
Alors oui, bah, alors c'est Lucas, L-U-C-S, Aloise, A-L-O-Y-S-E.com.
Merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir suivi ce podcast qui vous a été proposé par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble des épisodes de cette journée, comme des précédentes qui ont eu pour thème la construction de l'objet de recherche durant la thèse et le corps à l'épreuve de la thèse.